Gabriele d'Annunzio, L'enfant de volupté, livre quatrième, chapitre 1. Marie, laissez à cette minute sa douceur, laissez-moi exprimer tout ce que je pense. Elle se leva, doucement, sans colère, sans sévérité, avec une émotion manifeste dans la voix, elle dit « Pardon, je ne puis pas vous écouter, vous me faites trop de mal. » Je me tairai donc, mais restez, Marie, je vous en conjure. » Elle se rassit. C'était comme au temps de Skifanoïa. Rien ne surpassait la grâce de cette tête si fine qui semblait peiner sous la masse profonde des cheveux comme sous un châtiment divin. Une ombre morbide, suave, pareille à la fusion de deux teintes diaphanes, d'un violet et d'un azur idéalement tendre, environnait ses yeux où s'épanouissait d'un faux viris d'ange brun. Je ne voulais, reprit André humblement, je ne voulais que vous rappeler mes paroles de jadis, celles que vous avez écoutées un matin dans le parc, sur le banc de marbre, à l'ombre des arbousiers, en une heure inoubliable que ma mémoire garde comme une chose sainte. Je me les rappelle. Eh bien, Marie, depuis ce jour-là, ma misère est devenue plus triste, plus sombre, plus cruelle. Je ne saurai jamais vous dire toutes mes souffrances, toutes mes abjections. Je ne saurai jamais vous dire combien de fois mon âme vous a invoqué, comme dans les affres de la mort. Je ne saurai jamais vous dire quel était le frisson de bonheur, l'élan de tout mon être vers l'espérance, s'il m'arrivait d'oser croire un moment que mon souvenir vivait peut-être encore dans votre cœur. Il parlait avec le même accent qu'en cette matinée lointaine. Il semblait repris de la même ivresse passionnée. Toutes ses mélancolies lui remontaient aux lèvres. Et elle l'écoutait, la tête penchée, immobile, presque dans la même attitude que l'autre fois, et sa bouche, l'expression de sa bouche, qu'elle tenait en vain serrée avec violence, comme l'autre fois, trahissait une sorte de volupté douloureuse. Vous rappelez-vous Vicomile? Vous rappelez-vous le bois que nous avons traversé seul en cette soirée d'octobre? Donna Marie fit un léger signe de tête, comme pour dire oui. Et aussi la réponse que vous m'avez faite, ajouta le jeune homme d'une voix plus basse, mais avec une expression intense de passion contenue, en s'inclinant beaucoup vers elle, comme pour regarder au fond de ses yeux, qu'elle tenait toujours à terre. Enfin, elle les releva sur lui, ses bons yeux dolents, pleins de pitié. « Je me rappelle tout, 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 » dit-elle. « Pourquoi devrais-je vous cacher mon âme? Vous êtes un esprit noble et grand, et j'ai foi en votre générosité. Pourquoi devrais-je me conduire avec vous comme une femme vulgaire? Ce soir-là, ne vous ai-je pas avoué que je vous aimais? Votre question contient une autre question, je le comprends bien. » Vous voulez savoir si je vous aime encore ? » Elle hésita une seconde, ses lèvres tremblèrent. « Je vous aime. Marie ! Mais votre devoir est de renoncer pour jamais à mon amour et de vous éloigner de moi. Votre devoir est de vous montrer noble, grand, généreux, en m'épargnant une lutte qui m'effraie. J'ai beaucoup souffert et j'ai su souffrir. Mais la pensée d'avoir à vous combattre, d'avoir à me défendre contre vous, me donne une terreur folle. Vous ne savez pas au prix de quel sacrifice j'avais réussi à obtenir le calme du cœur. Vous ne savez pas à quels rêves superbes et chers j'avais dû renoncer. Pauvre rêve, si je suis devenue une autre femme, c'est parce qu'il me fallait devenir une autre femme. Si je suis devenue une femme ordinaire, c'est parce que mon devoir l'exigeait. » Elle avait dans la voix une mélancolie grave et suave. En vous rencontrant, j'ai senti tout d'un coup renaître en moi les vieux rêves, j'ai senti revivre mon âme de jadis. Et pendant les premiers jours, je me suis abandonnée à cette douceur en fermant les yeux sur le péril lointain. Je pensais, il ne saura rien de ma bouche, je ne saurai rien de la sienne. J'étais presque sans remords, presque sans crainte. Mais vous m'avez parlé. Vous m'avez dit des paroles que je n'avais jamais entendues, vous m'avez arraché un aveu. Le péril m'a paru, certain, dévoilé, manifeste. Et je m'abandonnais à un nouveau rêve. Vos angoisses me serraient le cœur, me faisaient une peine profonde. Je pensais, l'impureté l'a souillée. Oh, si j'avais le pouvoir de le rendre pur, combien je serais heureuse d'être l'holocauste de sa régénération. Votre tristesse attirait la mienne. Je prévoyais bien que je serais peut-être impuissante à vous consoler, mais j'espérais que peut-être vous éprouveriez un soulagement à sentir une âme répondre un éternel amen aux exigences de votre douleur. » Elle prononça cette dernière phrase avec tant d'exaltation spirituelle sur tout le visage qu'André fut envahi par un flot de joie presque mystique. Et en ce moment, son seul désir était de lui prendre les deux mains et d'exhaler sur ses chères mains immaculées son ivresse ineffable. « Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» poursuivit-elle, branlant la tête en signe de regret. « Nous devons renoncer pour toujours à toute espérance. La vie est implacable. Sans le vouloir, vous briseriez une existence entière, et plus d'une peut-être. » « Marie, Marie, ne dites point de pareilles choses !» interrompit le jeune homme en s'inclinant de nouveau vers elle et en lui prenant une main, non pas avec impétuosité, mais avec une sorte de timidité suppliante, comme si, avant d'accomplir cet acte, il eût attendu une marque de consentement. « Je ferai ce que vous voudrez, je serai humble et soumis. Ma seule ambition est de vous obéir, mon vœu unique est de mourir en invoquant votre nom. Renoncer à vous, c'est renoncer au salut, retomber pour toujours dans la ruine, s'abîmer irrémédiablement. » « Je vous aime comme nulle parole humaine ne pourra l'exprimer jamais. J'ai besoin de vous. Vous seul êtes vrai. Vous êtes la vérité que cherche mon esprit. Tout le reste est vain, tout le reste est néant. Renoncer à vous, c'est comme entrer dans la mort. Mais si le sacrifice de moi-même peut vous conserver la paix, je vous dois ce sacrifice. N'ayez pas peur, Marie, je ne vous ferai aucun mal. » Il lui tenait la main dans la sienne, mais ne la serrait pas. Sa voix n'avait point de flamme, elle était humble, désolée, désolante, pleine d'une immense détresse. Et la pitié faisait si bien illusion à Marie qu'elle ne retira pas sa main et s'abandonna pendant quelques minutes à la pure volupté de ce léger contact. C'était pour elle une volupté si subtile qu'elle semblait n'avoir pas de répercussions physiques. C'était comme si une essence fluide, partant du plus profond de son cœur, lui eût afflué le long du bras jusqu'aux doigts et se fût épanchée par le bout des doigts en une onde ineffablement harmonieuse. Et lorsqu'il se tut, les paroles dites dans le parc, en cette matinée inoubliable, revinrent à la mémoire de Marie, ravivées par le son récent de la voix qu'elle venait d'entendre. « Votre seule présence visible suffisait à me donner l'ivresse. » Et je la sentais couler comme du sang dans mes veines, envahir mon esprit comme un sentiment surhumain. Il y eut un intervalle de silence. De temps à autre, on entendait le vent secouer les vitres des fenêtres. Avec le vent arrivait une clameur lointaine, mêlée au roulement des voitures. La lumière entrait, froide et limpide comme une eau de source. L'ombre se ramassait dans les angles et aux plis des rideaux, faits d'étoffes orientales. Ça et là, sur les meubles, luisaient des incrustations de jade, d'ivoire, de nacre. Un grand Bouddha doré apparaissait dans le fond, sous un bananier paradisiaque. Ces formes exotiques prêtaient au salon un peu de leur mystère. « À quoi pensez-vous maintenant ?» demanda André. « Ne pensez-vous pas à la façon dont je dois finir ?» Elle semblait absorbée dans une méditation perplexe. Elle avait un air irrésolu, comme si elle eût écouté deux voix intérieures. « Je ne saurais vous dire, » répondit-elle en se passant la main sur le front d'un geste rapide, « je ne saurais vous dire quel pressentiment étrange m'accable depuis longtemps. Non, je ne saurais, mais j'ai peur. » Et, après une pause, « quand je pense que vous souffrez, que vous êtes malade, pauvre ami, et que je ne pourrai pas alléger votre peine, et que je vous manquerai à l'heure de votre angoisse, et que j'ignorerai même si vous m'avez appelé, mon Dieu !» Il y avait dans sa voix défaillante un tremblement de pleurs, comme si sa gorge se fût étranglée. André tenait la tête basse sans rien dire. « Quand je pense que mon âme vous suivra toujours, toujours, et que jamais, jamais, elle ne pourra se confondre avec la vôtre, qu'elle ne pourra jamais être comprise de vous, pauvre amour !» Elle avait la voix mouillée de larmes, la bouche contractée par la douleur. « Ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas !» s'écria le jeune homme en lui saisissant les deux mains, presque agenouillées, en proie à une vive exaltation. « Je ne vous demanderai rien. Je ne veux de vous que la pitié. La pitié qui me viendrait de vous me serait plus précieuse que la passion de toute autre femme, vous le savez bien. Seules vos mains pourront me guérir, pourront me ramener à la vie, me relever de ma bassesse, me rendre la foi, m'affranchir de toutes les choses mauvaises qui m'infectent et m'emplissent d'horreur. Oh, chère, chère main !» Il se courba pour les baiser. Il y tint sa bouche pressée longuement. Les yeux mi-clos, en signe de suprême douceur, il disait tout bas, avec un accent indéfinissable, « Je sens que vous tremblez !» Elle se leva, tremblante, éperdue, plus pâle qu'en cette matinée mémorable où elle cheminait sous les fleurs. Le vent secouait les vitres, une clameur arrivait comme d'une foule mutinée. Les cris que le vent apportait du Quirinal accrurent son agitation. « Adieu, je vous en prie, André, ne demeurez pas ici plus longtemps. Vous me reverrez une autre fois quand vous voudrez, mais maintenant, adieu, je vous en prie. » « Où vous reverrai-je ? Demain, au concert. Adieu. » Elle était bouleversée comme si elle eût commis une faute. Elle le reconduisit jusqu'à la porte du salon. Restée seule, elle hésita, ne sachant que faire, dominée encore par la frayeur. Elle sentait le tour de ses yeux, ses joues et ses tempes brûler d'une violente ardeur, tandis que des frissons lui couraient par tout le corps. Mais elle gardait sur les mains, persistante comme un sceau, l'impression de la bouche aimée, et cette impression était délicieuse, et elle l'aurait voulu indélébile comme un sceau divin. Elle regarda autour d'elle. Dans le salon, la lumière diminuait, les formes se noyaient d'ombre, le grand Bouddha recueillait sur sa dorure une clarté étrange. Tour à tour, on entendait et on cessait d'entendre les cris. Elle alla vers une fenêtre, l'ouvrit, tendit le front. Un vent glacial soufflait sur la chaussée où déjà, vers la place des Termes, commençaient à s'allumer les lanternes. En face, les arbres de la villa Aldobrandini se balançaient à peine teintés d'un reflet rougeâtre. Sur la tour des Milices pendait un énorme nuage cramoisi, solitaire dans le ciel. La soirée lui parut lugubre. Elle se retira. Elle alla s'asseoir à la même place où l'entretien avait eu lieu. Pourquoi Delphine ne revenait-elle pas? Elle aurait voulu se dérober à toute réflexion, à toute méditation. Et néanmoins, une faiblesse incompréhensible la retenait à cette place où, quelques minutes auparavant, André avait respiré, avait parlé, avait exhalé son amour et sa douleur. Les efforts, les résolutions, les contritions, les oraisons, les pénitences de 4 mois se dissipaient, s'effaçaient, devenaient inutiles en une seconde. Elle retombait, plus lasse et plus défaite, sans volonté et sans pouvoir contre la crise morale qui la surprenait, contre les sentiments qui la bouleversaient. Et tandis qu'elle s'abandonnait à l'angoisse et à la langueur d'une conscience où défaillait tout courage, elle avait la sensation que, dans l'ombre du salon, quelque chose de lui flottait encore et l'enveloppait toute d'une caresse infiniment suave.